Guerre et paix. Première partie, chapitre 2, scène 12. Après avoir pris congé du ministre de la guerre, Bolkonski partit dans la nuit avec l'intention de rejoindre l'armée, qu'il ne savait plus où trouver, et avec la crainte de tomber entre les mains des Français. À Brune, la cour faisait ses préparatifs de départ, et le gros des bagages était déjà expédié sur Olmütz. En arrivant aux environs d'Etzelsdorf, le prince André se trouva tout à coup sur le passage de l'armée russe, qui se retirait en grande hâte et en désordre, et dont les nombreux chariots qui encombraient la route empêchèrent sa voiture d'avancer. Après avoir demandé au chef des Cosaques un cheval et un homme, le prince André, fatigué et mourant de faim, dépassa les fourgons pour s'élancer à la recherche du général en chef. Les bruits les plus tristes arrivaient aux oreilles tout le long du chemin, et la confusion qu'il voyait autour de lui ne semblait que trop les confirmer. Cette armée russe, que l'or de l'Angleterre a transportée des extrémités de l'univers, nous allons lui faire éprouver le même sort, le sort d'Ulm, avait dit Bonaparte dans son ordre du jour à l'ouverture de la campagne. Ces paroles, subitement revenues à la mémoire du prince André, éveillaient en lui un sentiment d'admiration pour ce grand génie, joint à une impression d'orgueil blessé qui traversait l'espoir d'une prochaine revanche.
« Et s'il ne restait plus qu'à mourir ?»
pensa-t-il.
« Eh bien, on saura mourir, et pas plus mal qu'un autre s'il le faut. »
Il regardait avec dédain ces files innombrables de charrettes, de parcs d'artillerie, s'enchevêtrant, se confondant l'un dans l'autre. Et plus loin encore et toujours, des charrettes, des chariots de toutes formes se dépassant, se heurtant et s'interceptant le passage, en trois ou quatre rangs serrés sur la large route boueuse. Devant, derrière, aussi loin que l'on pouvait percevoir un son, on entendait de tous côtés le bruit des roues, des charrettes, des affûts, le piétinement des chevaux, le cri des conducteurs pressant leur attelage, les jurons des soldats, des domestiques et des officiers. Sur les bords du chemin, on voyait à chaque pas des chevaux morts, dont quelques-uns étaient déjà écorchés, des charrettes à moitié brisées, des soldats de toutes armes sortant en foule des villages voisins et traînant à leur suite des moutons, des poules, du foin et de grands sacs pleins jusqu'au bord. Aux descentes et aux montées, les groupes devenaient plus compacts, et leurs cris confus se fondaient en une clameur ininterrompue. Quelques soldats enfoncés dans la boue jusqu'aux genoux soutenaient les roues des avant-trains et des fourgons. Les fouets sifflaient dans l'air, les chevaux glissaient, les traits se rompaient et les vociférations semblaient faire éclater les poitrines. Les officiers, surveillant la marche, galopaient en avant et en arrière. Leurs figures harassées trahissaient leur impuissance à rétablir l'ordre, et leurs commandements se noyaient dans le brouhaha de cette houle humaine.
« Voilà la chère armée orthodoxe !»
se dit Bolkonski, en se rappelant les paroles de Bilibine et en s'approchant d'un fourgon pour s'enquérir du général en chef. Une voiture de forme étrange, traînée par un cheval, tenant le milieu entre la charrette, la calèche et le cabriolet, et dont les matériaux hétérogènes accusaient une fabrication de circonstances, frappa ses regards à quelques pas de lui. Un soldat le conduisait, et l'on apercevait, sous la capote et le tablier de cuir, une femme tout enveloppée de châle. Au moment de faire sa question, le prince André en fut détourné par les cris désespérés que poussait cette femme. L'officier, placé à la tête de la file, battait son conducteur parce qu'il essayait de dépasser les autres, et les coups de fouet cinglaient le tablier de la voiture. À la vue du prince André, la femme avança la tête, et, faisant des signes réitérés de la main, elle l'interpella.
« Monsieur l'aide-de-camp, monsieur l'aide-de-camp, pitié de grâce, défendez-moi. Qu'est-ce qui va m'arriver? Je suis la femme du médecin du 7e chasseur. On ne nous laisse pas passer. Nous sommes restés en arrière. Nous avons perdu les nôtres. »
« Arrière ou je t'aplatirai comme une galette ?»
cria l'officier en colère au soldat.
« Arrière avec ta coquine !»«
Monsieur l'aide-de-camp, défendez-moi !»« Comme veut-on ?
Laissez passer cette voiture, ne voyez-vous pas qu'il y a une femme dedans ?
Dit le prince André en s'adressant à l'officier. Celui-ci le regarda sans répondre et, se tournant vers le soldat,
« Ah oui, que je te laisserai passer ! Arrière, animal !»«
Laissez-le passer, vous dis-je, »
reprit le prince André.
« Qui es-tu, toi ?»
demanda l'officier hors de lui, et il appuya sur le « toi ».
« Es-tu le chef ici ? C'est moi qui suis le chef et pas toi, entends-tu bien ? Et toi là-bas, arrière, ou je t'aplatis comme une galette ! »
continua-t-il en répétant l'expression, qui lui avait plu, sans doute.
« Bien arrangé, le petit aide-de-camp !»
dit une voix dans la foule. L'officier était arrivé à ce paroxysme de fureur qui enlève aux gens la conscience de leurs actes. Et le prince André sentit un moment que son intervention faisait le ridicule, la chose qu'il craignait le plus au monde. Mais son instinct prenant le dessus, il se laissa à son tour emporter par une colère folle. Et il s'approcha de l'officier en levant son fouet et en scandant ces mots.
« Veuillez laisser passer !»
L'officier fit un geste de mauvaise humeur et se hâta de s'éloigner.
« C'est toujours leur faute à cela de l'état-major, le désordre et tout le Bataclan »
grommela-t-il.
« Eh bien, faites comme vous voudrez !»
Le prince André se hâta à son tour et, sans lever les yeux sur la femme du médecin, qu'il appelait son sauveur, repassa dans sa tête les détails de cette scène ridicule. Il galopa jusqu'au village, où se trouvait, lui avait-on dit, le général en chef. Arrivé là, il descendit de cheval dans l'intention de manger un peu, de se reposer un instant et de mettre de l'ordre dans le trouble pénible de ses impressions.
« C'est une troupe de bandits, ce n'est pas une armée !»
pensait-il, lorsqu'une voix connue l'appela par son nom. Il se retourna et il aperçut à une petite fenêtre Nesvitsky, qui mâchonnait quelque chose et lui faisait de grands gestes.
« Bolkonski, ne m'entends-tu pas ? Viens vite !»
Entré dans la maison, il y trouva Nesvitsky et un autre aide de camp, qui déjeunaient. Ils s'empressèrent de lui demander d'un air alarmé s'il apportait quelques nouvelles.
« Où est le général en chef ? »
demanda Bolkonski.
« Ici, dans cette maison ?»
répondit l'aide de camp.
« Eh bien, est-ce vrai la paix et la capitulation ?»
demanda Nesvitsky.
C'est à vous de me le dire, je n'en sais rien, car j'ai eu toutes les peines du monde à vous rejoindre.
Ah, mon cher, ce qui se passe chez nous est vraiment affreux. Je fais mon mea culpa. Nous nous sommes moqués de Mac, et notre situation est pire que la sienne. Assieds-toi et déjeune,
ajouta Nesvitsky.
Il vous sera impossible, mon prince, de retrouver à présent votre fourgon et vos effets. « Quant à votre Pierre, Dieu sait où il est. Où donc est le quartier général ? Nous couchons à Znaïm. »«
Quant à moi, »
dit Nesvitsky,
« j'ai chargé sur deux chevaux tout ce dont j'ai besoin et l'on m'a fait d'excellents bas qui résisteraient même au chemin de montagne de la Bohême. Ça va mal, mon cher. Eh bien, es-tu malade ? Il me semble que tu frissonnes. Je n'ai rien, »
répondit le prince. Et il se rappela au même instant sa rencontre avec la femme du médecin et l'officier du train.
« Que fait ici le général en chef ? Je n'y comprends rien, »
répondit Nesvitsky.
« Et moi je ne comprends qu'une chose, c'est que tout ça est déplorable, »
dit le prince André. Et il se rendit chez Kutuzov. Il remarqua, en passant, sa voiture et les chevaux de suite harassés, éreintés, entourés de cosaques et de gens de service, qui causaient à haute voix entre eux. Kutuzov lui-même était dans la chaumière avec Bagration et Weyrother. C'était le nom du général autrichien qui remplaçait le défunt Schmidt. Dans le vestibule, le petit Koslovski, la figure fatiguée par l'éveil, assis sur ses talons, discutait des ordres à un secrétaire, qui les griffonnait à la hâte sur un tonneau renversé. Koslovski jeta un œil à l'arrivant sans se donner le temps de le saluer.
« À la ligne, as-tu écrit ? Le régiment des grenadiers de Kiev, le régiment de... Impossible de vous suivre, votre haute noblesse !»
répliqua le secrétaire d'un ton de mauvaise humeur. Au même instant, on entendait à travers la porte la voix animée et mécontente du général en chef, à laquelle répondait une autre voix complètement inconnu. Le bruit de cette conversation, l'inattention de Koslovski, le manque de respect de l'écrivain à bout de force, cette étrange installation autour d'un tonneau dans le voisinage d'un commandant en chef, les rires bruyants des Cosaques sous les fenêtres, tous ces détails firent pressentir au prince André qu'il avait dû se passer quelque chose de grave et de malheureux. Il adressa aussitôt une kyrielle de questions à l'aide de Kant.
« À l'instant, mon prince, »
répondit celui-ci,
« Bagration est chargé de la disposition des troupes. Et la capitulation ? Il n'y en a pas, on se prépare à une bataille. »
Au moment où le prince André se dirigeait vers la porte de la pièce voisine, Koutouzov, avec son nez aquilin et sa figure rebondie, parut sur le seuil. Le prince André se trouvait juste en face de lui, mais le général en chef le regardait sans le reconnaître. À l'expression vague de son œil unique, on voyait que les soucis et les préoccupations l'absorbaient au point de l'isoler du monde extérieur.
« Est-ce fini ? »
demanda-t-il à Koslovski.
« À l'instant, votre excellence. »
Bagration avait suivi le général en chef. Petit de taille, sec, encore jeune, sa figure d'un type oriental attirait l'attention par son expression de calme et de fermeté.
« Excellence !»
Et le prince André tendit une enveloppe à Koutouzov.
« Ah, de Vienne, c'est bien !»
Il sortit de la chambre avec Bagration et ils s'arrêtèrent tous deux sur le perron.
« Ainsi donc, adieu, prince !»
dit-il à Bagration.
« Que le sauveur te garde, je te bénis pour cette grande entreprise !»
Il s'attendrit, et ses yeux s'humectèrent de larmes. L'attirant à lui de son bras gauche, il lui fit de la main droite sur son front le signe de la croix, geste qui lui était familier, et lui tendit sa joue à baiser. Mais Bagration l'embrassa au cou.
« Que Dieu soit avec toi !»
Et il monta en calèche.
« Viens avec moi, »
dit-il à Bolkonski.
« Votre Excellence, j'aurais désiré me rendre utile ici. Si vous vouliez me permettre de rester sous les ordres du prince Bagration, « Assieds-toi !»
reprit Koutouzov en voyant la décision de Bolkonski.
« J'ai moi-même besoin de bons officiers. Si demain la 10e partie de son détachement nous revient, il faudra en remercier Dieu. »
ajouta-t-il comme se parlant à lui-même. Le regard du prince André se fixa involontairement pour une seconde sur l'œil absent et la cicatrice à la tempe de Koutouzov, double souvenir d'une balle turque.
« Oui, »
se dit-il,
« il a le droit de parler avec calme de la perte de tant d'hommes. C'est pour cela, »
continua-t-il tout haut,
« que je vous supplie de m'envoyer là-bas. »
Koutouzov ne répondit rien. Plongé dans ses réflexions, il semblait avoir oublié ce qu'il venait de dire. Doucement bercé sur les coussins de sa calèche, il tourna un instant vers le prince André une figure calme, sur laquelle on aurait vainement cherché la moindre trace d'émotion, et, tout en raillant finement, il se fit raconter par Bolkonski son entrevue avec l'empereur. Les on-dit de la cour sur l'engagement de Krems, et le questionna même au sujet de quelques dames que tous deux connaissaient.